France Inter, le 18-20.
Y a-t-il péril en les vieilles demeures? Un quart des monuments protégés en France sont jugés en mauvais état. 5% sont en péril. Alors comment faire? Sur la table, plein d'idées dont vous nous direz si vous les trouvez bonnes ou mauvaises. L'idée d'un loto patrimoine a déjà été actée. Le financement participatif existe déjà. Faut-il l'étendre encore? L'État doit-il faire plus, même s'il a déjà augmenté sa participation? Faut-il laisser au mécénat le soin de remettre en état notre patrimoine? Et si les étrangers étaient peut-être parfois plus attachés à nos pierres que nous le sommes nous-mêmes. Est-il venu le prix des cathédrales? On se souvient des réactions que cela avait provoquées quand l'idée a été avancée. Puis comment choisir ce qui doit être restauré? Après tout, chaque petite église ou vieux château doit-il vraiment retrouver un air de jeunesse? Les choix vont-ils devenir plus cornéliens? On en parle ensemble ce soir dans le Téléphone Sonne. Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le Téléphone Sonne.
Bonsoir Willy, c'est vous le premier, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Alors moi c'est un petit témoignage, donc je suis enseignant dans un lycée professionnel. J'enseigne la restauration de mobilier ancien en bois à mes élèves. Et donc comme on a besoin de support pour travailler, on fait appel à des particuliers pour qu'on puisse restaurer et que je puisse enseigner la pratique de la restauration et de la conservation à mes élèves. Mmh. Et de plus en plus, je constate quand même que je suis sollicité par des collectivités locales, comme des petites mairies qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui voudraient bien faire restaurer le mobilier qu'ils peuvent avoir dans leur mairie ou dans leur église, et qui font appel à des restaurateurs pour des devis, des restaurateurs qui sont très compétents et qui, par contre, annoncent parfois des devis que la commune ne peut pas forcément soutenir. Après, les communes se tournent vers la DRAC. C'est pas toujours évident, les délais peuvent être longs. Il y a aussi une sorte de priorité par rapport à l'état des œuvres qui est mise en place. Et donc voilà, moi je suis témoin un petit peu de ça, et voilà ce que je voulais dire.
Eh bien c'est gentil. Et vous le faites par curiosité, Willy, vous le faites quand on vous le demande? Est-ce que ça fait partie aussi du travail que du coup vous pouvez faire avec vos élèves ou pas?
Alors, techniquement oui, mais légalement je suis pas habilité en fait. Mmh. C'est-à-dire que depuis la loi musée, moi je peux pas, je n'ai pas d'habilitation pour travailler. Et donc les objets qui sont classés collection publique, aujourd'hui ne peuvent être restaurés que par des
restaurateurs agréés, vous voulez dire? C'est comme ça que ça s'appelle en fait? Faut être restaurateur agréé.
Tout à fait, exactement.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Willy. Et pour vous répondre et pour discuter avec nous toute la soirée, Célia Véraud est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de la Fondation du patrimoine et Stéphane Bern avec nous par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
Animateur bonsoir. De télé de radio qu'on connaît, Stéphane, chargé de mission, surtout de préservation du patrimoine par le président de la République. Célia Véraud, qu'est-ce qu'on peut répondre à Willy? Est-ce que finalement, on ne se rend pas compte qu'il y a peut-être des freins, en fait, des choses qui sont plus difficiles qu'elles devraient l'être, là en l'occurrence, pour restaurer des petites choses dans les mairies?
Alors tout d'abord, ce qu'explique cet auditeur correspond à une réalité plus générale, c'est-à-dire que les financements publics pour le patrimoine, ils restent majoritaires évidemment, mais ils ne sont pas en croissance. Évidemment, tous les budgets publics, et notamment aujourd'hui les budgets des collectivités, ils sont très limités. Et donc ces collectivités, elles vont chercher de l'aide ailleurs, et c'est ce qu'apporte notamment la Fondation du patrimoine et d'autres intervenants, au travers du mécénat populaire, au travers du mécénat d'entreprise, ou ce que décrit cette personne, c'est-à-dire une forme de mécénat de compétences, ou en prestation.
Mais visiblement, ça a l'air compliqué pour Willy parce qu'il n'est pas restaurateur agréé. Est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir un petit peu des portes, en fait, pour que des gens comme Willy puissent aussi participer aux restaurations de manière très officielle?
Alors effectivement, il peut y avoir des freins juridiques. Je pense que ce qui est évoqué ici concerne les qualifications professionnelles. Mmh. C'est vrai qu'en France, on a un système de qualifications professionnelles qui était assez exigeant. Et donc à regarder s'il peut y avoir des assouplissements sur ces points-là.
Stéphane Bern, quand j'écoute Willy, et j'ai entendu aussi dans sa question, dans son témoignage, l'idée de priorité. Comment on fait pour prioriser, en fait? Comment on fait pour dire, là oui, il va falloir mettre de l'argent, y compris sur des petites restaurations, j'allais dire, des chaises, des tables, des choses comme ça? Comment on fait pour prioriser tout ça?
C'est très compliqué parce qu'évidemment, c'est faire des choix, et faire des choix, c'est parfois renoncer. Moi, j'essaie de, à travers la mission, de dire, écoutez, prenons les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est selon l'urgence des restaurations qui s'imposent à nous. Et je crois que, et c'est vrai que ça répond un peu à la question que vous posiez très justement, Rémi, c'est-à-dire, est-ce que tout doit être restauré? Oui, parce que ça voudrait dire qu'on abandonne des pans entiers de notre patrimoine, dont 50% se trouvent dans des communes de moins de 2000 habitants. Et que quand le petit patrimoine, par exemple, est à l'abandon dans les villages, eh bien, les gens ont le sentiment que l'État les abandonne. Or, c'est vrai que les collectivités n'ont plus ces moyens. Donc, il faut qu'on trouve absolument des moyens pour aider ces collectivités locales à restaurer ce petit patrimoine, ce patrimoine. Mais l'urgence, elle est, c'est vrai aussi pour tous les monuments. Donc, il va falloir que oui, la question de la priorité se pose, mais c'est simplement une question de l'urgence, en fait.
Est-ce qu'on sait, Stéphane, une petite commune, vous le disiez, moins de 2000 habitants, est-ce qu'il y a un budget restauration? Est-ce que ça existe? Ça correspond à quoi? Est-ce que c'est finalement infinitésimal? Parce que dès lors qu'on parle de restauration, forcément, en général, ça coûte cher.
Ça coûte très cher, ça se chiffre très facilement. Je vois dans mon village, par exemple, pour l'abbatiale, on a déjà 1,5 million. Et évidemment, alors il y a plusieurs phénomènes qui sont très intéressants. C'est d'abord, ce n'est plus la priorité, le patrimoine. C'est-à-dire que dans un village, au conseil municipal, quand vous discutez de la priorité du budget, il y a d'abord la salle polyvalente, les aides sociales, la salle polyvalente, le stade de foot, la station d'épuration des eaux, etc. Et seulement après, on s'occupe du patrimoine. Moi, ce que j'essaye de faire prendre conscience aux communes, c'est que leur patrimoine, c'est ce qui va leur permettre de se développer. C'est leur trésor, au fond. C'est la mine d'or qui va leur permettre de financer d'autres choses à l'avenir. Mais c'est très difficile d'expliquer ça dans des conseils municipaux. Et voilà, donc ça coûte très cher et les gens n'ont... Alors, la chose qui vient en support, et Célia peut le raconter mieux que moi, Célia Véro de la Fondation du Patrimoine, c'est que à partir du moment où vous avez une première subvention, où la Fondation, par exemple, débloque des fonds, vous avez toutes sortes d'aides, c'est-à-dire l'aide de l'Europe, de la région, du département, etc. Donc vous avez... Et puis vous empruntez à 0% quand vous êtes une petite commune. Mais c'est vrai qu'il y a une ingénierie financière et administrative qui parfois les décourage, il faut être honnête.
Alors justement, tiens, et sur le même sujet, bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue dans le téléphone sonne. Vous avez une super petite église chez vous.
Exactement, et je ne suis pas dans une petite commune puisque je suis à Paris.
Ah bah d'accord, en effet. Donc attendez, vous êtes où à Paris? Vous me parlez de quelle église?
De l'église de l'île Saint-Louis.
D'accord, ah oui, ok.
Donc voilà. Et cette église est dans un état absolument lamentable. Depuis 30 ans, elle tombe en ruine. Et la municipalité, on peut pas dire que c'est une petite municipalité qui n'a pas les moyens, ne fait rien.
Et vous, habitant du 4e et de l'île Saint-Louis, probablement, vous avez, j'imagine...
En proteste.
Voilà, protesté. Essayez oui. De quoi? De lever des fonds? Essayez le participatif?
Non,
ou pas
si
du
vous
tout
voulez, nous, ben, comment voulez-vous? On n'a pas les moyens, sauf qu'on avait simplement besoin de prévenir qu'il fallait agir d'urgence. Maintenant, cette église, elle est empaquetée dans des filets. Ça fait 3 fois que ces filets sont changés, à des coups, je ne veux pas vous dire. Des pierres tombent régulièrement. Notre prêtre est un miraculé parce qu'il y a un bout de la croix qui lui est tombé devant le nez un jour, de 8 kilos. La semaine dernière, il y a encore une pierre qui est tombée. Voilà, c'est tout. Et la municipalité ne fait rien, alors que je pense qu'ils ont plus que les moyens.
Jeanne, merci beaucoup voilà. pour votre témoignage. Vous disiez que vous n'habitiez pas un petit village, et en même temps, l'île Saint-Louis a quand même quelque chose d'un petit village dans Paris. Célia Véro, vous la connaissez, vous, cette église? Des cas comme ça, par exemple, vous connaissez ou pas?
Alors, celui-là, non, mais des cas comme ça, on en a tout le temps. En fait, dans les 2500 projets qu'on soutient chaque année, il y a 70% d'églises. Donc, cette situation, elle est très courante. La particularité, là, c'est qu'on est à Paris, mais à Paris, il y a beaucoup d'églises qui ont des problèmes. Donc, en fait, on a beaucoup de petites communes qui se retrouvent face à une sorte de mur financier, comme l'a décrit Stéphane. C'est-à-dire, il y a d'autres priorités, on baisse les bras, on ne sait pas quoi faire, et puis il y a quand même une désaffection du culte. Donc, est-ce que les habitants vont vraiment soutenir cet effort de restauration? Les maires s'interrogent. Et là où on arrive, c'est avec l'exemple de ce qu'on a réussi à faire dans d'autres endroits et on veut que ça fasse tache d'huile, c'est-à-dire on redonne l'espoir et la capacité à faire ces projets de restauration. Pourquoi? Parce que, effectivement, aux côtés des financements publics, on va faire venir du mécénat populaire.
Et le mécénat populaire... Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une impulsion, en fait. Voilà. Si vous donnez pas... C'est ce qu'expliquait Stéphane Bern à l'instant. Oui. Vous donnez l'impulsion, après, tout suit comme une cascade. Mais s'il n'y a pas cette impulsion, il se passe rien.
On leur fait comprendre que c'est possible, qu'on va pouvoir se prendre en charge... nous-mêmes et aller trouver des financements qui seront complémentaires, mais qui ne seront pas que de l'argent, qui seront aussi le soutien de la population au projet. Et ça, pour des élus, c'est très important. S'il y a 200, 400 personnes qui vont contribuer, les maires peuvent plus facilement faire passer le budget au conseil municipal. Et puis, ça recrée aussi toute une forme d'animation, de lien dans la commune, parce qu'on va créer des événements, des fêtes, etc. Donc, c'est tout à fait sympathique. Et ça permet de faire parfois des miracles, c'est-à-dire restaurer. Non, mais c'est vrai, on a vu des cas, par exemple, dans une petite, très petite commune de l'Est de la France, dans un hameau de 600 habitants, on a réussi à restaurer la commune qu'avec la chapelle, uniquement avec de la souscription.
Stéphane Bern, je reprends l'exemple de Jeanne dans le 4e arrondissement de Paris. Est-ce que c'est pas finalement plus compliqué dans une grande ville ou dans une ville comme Paris, où effectivement Paris étant, je le dis sans aucun aspect péjoratif, une ville musée, Dieu sait qu'il y a de l'argent à mettre ici et là dans les restaurations. Est-ce que c'est pas finalement beaucoup plus compliqué pour l'église de l'île Saint-Louis finalement que pour tout autre ?
Exactement, parce que dans un petit village, vous n'avez que ça parfois. C'est-à-dire que le seul point d'intérêt, j'allais dire historique et culturel, il est cultuel. C'est-à-dire, Véro a raison de dire que parfois, il y a le problème de la désaffection aussi du public pour les lieux de culte, qui font que pour les maires, ce n'est plus un enjeu prioritaire. Maintenant, à Paris, il y a énormément d'églises qui doivent être restaurées. Et donc, il faut faire des choix, là. Madame de Paris, je crois qu'Anne Hidalgo a voté un budget assez conséquent, mais qui ne suffit pas. Il y a la Fondation de l'Avenir qui essaye de suppléer avec quelques polémiques. On a vu que la Tribune de l'Art n'aime pas beaucoup qu'on mette des grandes bâches devant Saint-Augustin avec pour vendre un téléphone portable pour payer les restaurations qui se font à l'intérieur. Mais c'est aussi une forme de mécénat qui est devenue nécessaire. Et je ne parle pas de Notre-Dame de Paris. Comme vous le savez, les pinacles sont tombés. Il y a 10 arcs-boutants qui doivent être restaurés de toute urgence. Il y a pour à peu près 180 millions d'euros de travaux. L'État a reporté, c'est Notre-Dame de Paris, la cathédrale principale, eh bien on a reporté de quelques mois les travaux parce que nous n'avons pas les moyens de les effectuer maintenant.
Victor nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Victor, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Je vous écoute avec attention et c'est vrai qu'on est un peu centré que sur les églises, mais moi je voudrais vous faire part de mon sentiment sur le fait que il faut sauver le patrimoine à tout prix, parce que d'abord c'est ce qui nous relie à l'histoire. L'histoire avec les différents peuples qui ont vécu sur notre territoire, les générations, les différents régimes qu'on a connus, aussi bien les Romains, Gallo-Romains, la royauté, etc. Et même pour aller jusqu'à son comble épouvantable, plus épouvantable qu'on ait connu, c'est Auschwitz à la dernière guerre mondiale. Et moi, je suis originaire d'une ville, vous avez parlé de Paris, ville-musée, moi j'ai une autre ville-musée, je suis originaire de Senlis dans l'Oise. Et pendant 9 ans, j'ai joué dans la cour de mon école sous le regard, entre guillemets, de la cathédrale de Senlis, qui est une cathédrale magnifique du XIIe siècle. J'ai joué à la balle au mur contre un ancien hôtel Henri IV, c'était dans ma cour aussi. Et le jardin de mes parents donnait sur les arènes de la ville qui ont été construites par l'empereur Auguste en 25-30. Donc en fait, j'ai toujours baigné dans ce secteur-là. Et il faut absolument qu'on préserve tout. Absolument tout, il faut que l'État y mette des moyens. Je crois que patrimoine, les mécènes, etc., ils sont là que pour tirer une gloire, une certaine, comment dire, un retour sur investissement, entre guillemets, hein, comme on parle des bâches qui cachent Saint-Augustin. Et moi, je crois qu'on a intérêt à véritablement dégager des moyens, dire que c'est un patrimoine national. Si on veut avoir 100 millions de visiteurs en France, pour les musées, les monuments, il faut y mettre les moyens. Et je pense qu'on a bien sorti 23 milliards pour le CICE, on peut bien sortir quelques milliards pour restaurer tous nos bâtiments historiques français.
Victor.
Parce que, juste un petit mot.
Allez-y, vite.
C'est Jacques Ralitz, qui était maire d'Aubervilliers, et qui disait « Un peuple qui oublie son histoire se condamne à des libertés précaires ». Donc je pense que véritablement, on a intérêt à soutenir notre patrimoine pour pas oublier ce qui s'est fait auparavant.
Merci beaucoup, Victor. Je note que vous jouiez à la balle au mur et ça aussi, c'est un jeu qui est bon à inscrire au patrimoine, au patrimoine français. Stéphane Bern, j'imagine que vous ne pouvez qu'être d'accord avec ce que dit Victor.
Absolument.
La préservation,
absolument,
la relation à l'histoire.
Victor est très juste. C'est une ambition nationale. On doit sauver le patrimoine. Mais il y a 88 millions de visiteurs qui viennent voir. On est le pays le plus visité au monde. Mais on va leur montrer quoi dans quelques années? Des ruines? Et je crois, c'est la raison pour laquelle dans la mission qui m'a été confiée, j'ai souhaité que toutes les formes, toutes les typologie de patrimoine soit représentée. Le patrimoine archéologique, le patrimoine jardin, donc paysager, évidemment le patrimoine religieux et les châteaux, mais aussi le vernaculaire, le petit patrimoine de proximité, également les maisons d'illus qui tombent en ruine, je pense à la maison de Georges Bizet, à la villa de Pauline Verdot, la maison Tourguenieff et tant d'autres. Je pense aussi si vous voulez, au patrimoine du XXe siècle, Victor a raison, il faut qu'on se mobilise, c'est un enjeu de société, c'est non seulement de la convivialité, comme le rappelait Célia Véraud, c'est aussi montrer que c'est économiquement vous redonner vie. Ça impacte directement l'économie des territoires et on parle beaucoup de développement des territoires. Mais partout en France, vous avez des trésors qui méritent d'être mis en exergue. Alors il ne faut pas que la France devienne un musée à ciel ouvert non plus, ou en tout cas uniquement que cela. Mais c'est vrai qu'il faut valoriser le patrimoine parce que ça crée de l'emploi et ça génère de l'économie.
Merci Stéphane. Juste un mot, Célia Véraud, avant qu'on retrouve quelqu'un au 01 45 24 7000. Ce que dit aussi Victor, c'est à l'État de faire ça. Est-ce que l'État peut tout? Est-ce qu'à un moment, il faudra appuyer encore plus sur le financement participatif qui existe déjà? Compter, effectivement, vous le disiez, sur une forme de mécénat plus importante. Est-ce que réellement l'État peut tout si on veut, comme le disait Stéphane Bern, tout restaurer?
Alors, ce qui est sûr, c'est que les restaurations, ça coûte très cher, mais ça rapporte beaucoup. Alors, on peut tout attendre de l'État, mais on sait qu'aujourd'hui, les budgets publics sont très serrés et on ne veut pas augmenter les impôts. Donc, moi, je crois beaucoup à ce que les petites rivières font des grands fleuves. C'est-à-dire, toutes ces formes de mécénat qui s'ajoutent aux subventions publiques, en fait, forment un cercle vertueux. Par exemple, je disais tout à l'heure, les collectivités, elles sont contentes de financer des restaurations quand elles savent que la population soutient. Mais c'est la même chose pour les grandes entreprises, ou même les PME locales, qui sont d'ailleurs souvent des mécènes, hein, des petits projets locaux. Elles sont contentes d'appuyer des projets qui sont soutenus par la population. Donc il faut ajouter les différentes pierres à l'édifice. Et il n'y a pas de source de financement qui est négligeable.
Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'est venue l'idée, allons-y maintenant, puisque l'auditeur y faisait allusion, de ce fameux loto-patrimoine. On a presque envie de dire pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt ? C'est assez simple.
Alors, on va dire, on y a pensé depuis longtemps, parce que ça fait au moins une dizaine d'années.
Alors, attendez, je vais reformuler. Comment se fait-il que ça n'arrive que maintenant?
Alors, je crois que ça arrive maintenant parce que, voilà, il y a une impulsion forte qui correspond à la mission de Stéphane Bern et à la volonté de l'exécutif. Donc c'est très bien. On en est très heureux. Il faut voir que ça existe à l'étranger. Il y a plusieurs pays où la loterie contribue de manière très, très significative au financement du patrimoine. Donc, on considère que c'est un très bon démarrage pour faire du patrimoine une grande cause.
Et Stéphane Bern, puisqu'on est dans le financement, où on en est de cette histoire de cathédrale qui avait tellement fait de bruit, de paiement à l'entrée des cathédrales? C'est toujours sur le tapis ou finalement on part dans d'autres directions?
Écoutez, on a demandé en tout cas, je sais que j'ai lancé un pavé dans la mare avec cette idée parce que tous les pays d'Europe font payer l'entrée des cathédrales, évidemment pas pour les fidèles et pas aux heures des offices. Hein, on peut aller se recueillir à Notre-Dame de Paris le matin tôt dans l'après-midi, mais quand il y a 2 heures de queue à midi, je mets au défi quiconque d'aller se recueillir quand vous avez 14 millions de visiteurs qui se précipitent à Notre-Dame de Paris. Mmh. C'est le premier monument visité. Ça se fait en Italie, à Saint-Pierre de Rome notamment, ça se fait à Vienne, pays très catholique, ça se fait place Saint-Marc, ça se fait, on a restauré la Sagrada Familia de Gaudi en Espagne, à Barcelone, avec ce financement-là. On me rétorque que la loi de 1905 empêche tout cela. Bah, jusqu'à présent, l'Église fait, à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, fait du commerce, puisqu'il y a 3 boutiques qui rapportent beaucoup d'argent. Donc c'est toujours à l'État de financer le patrimoine religieux, mais moi je pense qu'il faut, il y a des millions de visiteurs qui visitent les cathédrales et qui les traitent, j'allais dire, comme un musée. Alors, je veux bien croire que c'est un lieu de prière, de recueillement, et il faut laisser aux fidèles voilà, cette possibilité de prier en toute liberté. Mais il y a deux entrées, place Saint-Marc. Il y a une entrée pour les touristes et une entrée pour les fidèles. Je crois qu'on va y venir, parce que je ne sais pas comment on va pouvoir restaurer maintenant Notre-Dame de Paris. Alors peut-être j'ai lancé cette idée trop tôt, mais voilà, il va falloir trouver des solutions pour financer ces centaines de millions dont on a besoin pour sauver notamment Notre-Dame de Paris.
Bonsoir Georges.
Oui, bonsoir.
J'attendais votre question, Georges, allez-y.
Oui, alors ma question était la suivante. Tout d'abord, je vous salue tous autour de la table, là, et les intervenants, et je disais la chose suivante. Depuis la séparation de l'Église et du tiers-État, il me semble que en France, justement, le pays est laïque. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait aux contribuables, et donc à l'État, de financer les restaurations de toutes les églises qui tombent en désuétude pour diverses raisons. Ceci est le premier point. Deuxièmement, pourquoi le Vatican, qui est une puissance financière assez importante, dont on ne parle pas trop, on ne veut pas trop, parce qu'il ne laisse pas rentrer beaucoup de journalistes comme vous pour faire des études là-dessus, pourquoi le Vatican ne se préoccupe pas justement de faire en sorte d'apporter des fonds aux catholiques pour la restauration de leurs églises, ou tout au moins de celles qui ont un caractère architectural marqué et qui font partie du patrimoine, comme l'on dit, et qui pourraient être justement de ce biais-là consolidé ou tout au moins rénové. Hein. Donc vous faisiez allusion, je crois que c'est Monsieur Bern là, qui faisait allusion à la Sagrada Familia de Barcelone. Je dirais que la Sagrada Familia, ce ne sont que des bénévoles qui, depuis sa création par Gaudi, construisent petit à petit, apportent petit à petit de l'argent pour que ce monument qui est magnifique et que l'on visite en payant puisse être justement terminé. Et puis je ferai un petit clin d'œil à Monsieur Bern,
ouais,
puisque lui il fait de la publicité pour les fenêtres à Kena, et bien il a qu'à offrir des fenêtres à Kena aux églises qui sont au froid et qui n'ont plus de vitraux et de rosaces, n'est-ce pas?
Voilà,
ça sera une chose intelligente à faire.
Merci,
n'est-ce pas, Monsieur Bern?
Merci Georges.
Oui.
Et Stéphane va vous répondre tout de suite. Est-ce que vous pouvez financer les vitraux, Stéphane Bern? Allez-y.
Oui, je réponds, puisque juste sur ces vérandas dont j'ai fait la publicité, j'ai demandé à la société de financer sur 3 ans la mission Berne. Donc ils vont faire un chèque très conséquent pour sauver le patrimoine. Et quant à moi, j'ai arrêté de prêter ma voix pour la publicité.
Alors la question,
la mission était plus importante. Mais cela dit, c'est très intéressant ce que dit cet auditeur, parce que c'est un vrai débat en France. Mais c'est l'accord de 1905. C'est-à-dire qu'en échange de la séparation de l'Église et d'État, c'est à l'État de prendre en charge la restauration du patrimoine. Sauf que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de catholiques. Donc, et puis, il y a aussi les communautés de communes qui se retrouvent avec 7 églises, par exemple. Et moi, des maires que j'appelle, parce que les associations, les gens, vous savez, les dossiers m'arrivent par centaines, les gens m'appellent, j'appelle les maires à mon tour en leur disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit, bah, écoutez, monsieur Bern, il y en a 2 qu'on va laisser tomber littéralement, comme ça on ne pourra pas les reconstruire, parce que nous on n'arrive pas à entretenir 7 églises. La plupart de ces églises d'ailleurs sont fermées, fermées la journée, parce qu'il faut payer un gardien pour ouvrir, fermer, etc. Et donc je pense qu'il y a une nouvelle, il faut inventer quelque chose. Cette loi de 1905, il faut la faire évoluer, évidemment. Parce qu'elle couvre une réalité qui a changé avec le temps. Il y a de moins en moins de gens qui vont, qui vont à l'église, et les contribuables n'ont plus envie de payer forcément pour ce patrimoine-là, c'est vrai.
Et en voilà une idée, tiens, Célia Véro qui nous vient de Luc sur franceinter.fr. Ne pourrions-nous pas envisager une forme de service civil, d'impliquer les générations futures, les détenus, encadrés par des professionnels et que sais-je, ou autres formateurs pour restaurer et entretenir notre patrimoine? Ça existe un service civique pour faire de la restauration de patrimoine?
Alors ce qu'on fait déjà, c'est des chantiers d'insertion et des chantiers de bénévoles. Il y en a sur toute la France avec un certain nombre d'associations avec lesquelles on travaille. C'est une manière aussi d'aider les jeunes à démarrer dans la vie, à avoir une formation qualifiante ou tout simplement à se remobiliser. Donc
ça existe.
Oui.
Tiens, cette question aussi de François qui est à La Roche-sur-Foron. C'est lamentable, dit-il, que le château de Versailles et d'autres patrimoines soient utilisés pour faire de la pub pour des marques privées et autres. Et pourtant, Célia Véro, ça rapporte ce genre de choses à l'intérieur du château de Versailles ou d'ailleurs, non?
Depuis la loi sur le mécénat, il y a des sommes importantes qui sont mobilisées sur le patrimoine. On estime à 3,5 milliards d'euros, pardon, le mécénat des entreprises. Et 15% de ça va au patrimoine et à la culture. Environ 500 millions d'euros. Donc c'est pas négligeable.
Stéphane Bern, peut-être qu'il faut savoir ce qu'on veut aussi, oui. Effectivement. Comment on veut financer et ou pourquoi sanctuariser intégralement ces lieux?
Exactement. Alors déjà, il y a des situations. Je réponds aussi sur Versailles, pardon, d'un point.
Allez-y, je vous en prie.
C'est que Versailles, si vous voulez, n'a pas son budget propre, son budget de fonctionnement. Et donc, d'ailleurs, l'État prélève un peu sur les 8 millions de visiteurs, hein, entre 5 et 8 millions selon les années. Et donc, ils sont obligés de faire du mécénat pour pouvoir faire les restaurations qui s'imposent. Mmh. Maintenant, est-ce que la question qui se pose au-delà, au lendemain de ma mission, au fond, qui est de prioriser, de cartographier et de sauver ce qui peut l'être, notamment avec le loto patrimoine qu'on fait en coordination avec la Française des Jeux et avec la Fondation du patrimoine qui est la cheville ouvrière, c'est de réfléchir ce qui va se passer demain. Tous les monuments ne sont pas destinés à être visités comme le château de Versailles. Mmh. Il y a des monuments, peut-être qu'on peut faire des réemplois. On peut faire des hôtels ici, créer de l'emploi. On peut faire du coworking, des espaces de coworking. On peut installer des start-up dans certains châteaux parce que ça ne détruit pas les boiseries. Voilà, mais tout le patrimoine national n'est pas fait pour être visité avec, vous voyez, comme les châteaux de la Loire ou comme le château de Versailles, Fontainebleau ou les mastodontes qui attirent la majorité du public. Et peut-être qu'il faut réfléchir à une deuxième vie qu'on peut donner au patrimoine national.
Val nous appelle au téléphone sonne. Bonsoir Val, vous attendez depuis longtemps. Merci de votre patience et on vous écoute.
De rien, c'est un plaisir d'attendre quand l'émission est intéressante et c'est très 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 souvent le cas avec le téléphone sonne.
Eh ben tant mieux, bravo.
Rebondir un peu sur ce que disait Monsieur Bern, en fait moi quand j'ai entendu l'accroche ce soir, c'est le patrimoine la pierre. Et moi je voudrais qu'on parle un petit peu d'un autre patrimoine. En France on a un très beau patrimoine en termes d'arbres, d'arbustes et plantes diverses et paysages et voilà. Et donc le patrimoine arboré c'est quand même un terme qui existe aussi. Et du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sous pour les pierres, il y en a encore moins pour préserver ce genre de patrimoine. On a beaucoup d'espaces naturels qui ont du mal à être entretenus ou des zones humides qui disparaissent. Et je pense aussi que quand on prend en compte ce patrimoine-là, il y a parfois une vision qui est influencée par la pierre. Et du coup, on entretient ce patrimoine arboré, on essaye de préserver des vieux arbres en ne tenant pas compte du fait qu'ils sont vivants et qu'ils peuvent être très anciens et dangereux, et que préserver, c'est peut-être replanter le même, ou préserver la variété et non pas l'arbre lui-même. Et j'ai l'impression que cette vision-là, ça va jusqu'à imprégner la façon dont on traite nos pierres. Et effectivement, j'ai eu la chance d'habiter en Angleterre où on avait un club de sport dans une chapelle. Donc ça, c'est un peu dans le sens où, allez, Monsieur Bern, comment ça se fait qu'on ne prend pas davantage en compte le fait que le patrimoine, il est comme nous, il est vivant. Et est-ce qu'on a l'espoir de voir cette vision très muséale et conservatrice évoluer?
Merci beaucoup pour votre question, pour votre remarque, Val. Il y a deux parties dans votre question. Célia Véroil a raison, Val. Il n'y a pas que les pierres, il n'y a pas que les vieilles pierres, il n'y a pas que les bâtiments, il n'y a pas que les meubles. Il y a aussi les traditions, il y a les savoir-faire. Et puis, il y a les paysages aussi, que peut-être on oublie derrière les églises et les bâtiments.
Alors nous, on ne les oublie pas parce qu'on essaye de traiter toutes les formes de patrimoine, y compris les vieilles voitures, les avions, les bateaux, y compris le patrimoine naturel, le patrimoine immatériel. Alors évidemment, le premier stade, c'est de s'intéresser aux jardins qui peuvent entourer des bâtiments remarquables, mais aussi des projets qui concernent véritablement le patrimoine naturel. Par exemple, Voie Navigable de France qui entretient le canal du Midi, un projet qui consiste à replanter tous les arbres qui longent ce canal et qui sont en très mauvaise santé. Et donc va devoir faire appel, là encore, à la fois au fonds public, puisque Voie Navigable est un établissement de l'État, mais aussi au mécénat et aux souscriptions.
Stéphane Bern, dans ce que disait Val aussi, et ça va dans le sens effectivement de ce que vous disiez précédemment, le patrimoine est vivant, donc n'hésitons pas à mettre les pieds dedans, c'est pas en sucre tout ça, ni en cristal quoi.
Absolument, il ne faut surtout pas le fossiliser, il ne faut pas le mettre sous cloche, faut vivre avec, et évidemment le patrimoine paysager est très important, mais là, évidemment ça pose le problème des éoliennes qui sont en train parfois de détruire aussi un certain équilibre et un paysage, hein, même si on est tous d'accord qu'il faut peut-être sortir du nucléaire. D'autre part, vous avez aussi, je vois que maintenant tout le monde veut aller très vite, on fait des voies de contournement, on est en train de bétonner la vallée de la Dordogne près du village de Bénac pour gagner un quart d'heure pendant les embouteillages d'été, et personne ne dit rien, tout le monde donne son accord. On est en train de vouloir protéger la planète et en même temps, eh bien, chez nous, on est en train de bétonner des vallées historiques qui n'ont pas bougé, des paysages qui sont là depuis des générations. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à m'enflammer, à me révolter, à vouloir que on sauve le maximum de choses, mais sans fossiliser. Moi, je vis avec mon temps. Je trouve que c'est très bien d'avoir le Wi-Fi dans les monuments historiques et de pouvoir vivre. Ça doit évoluer, vivre le patrimoine. Il n'évolue pas, il meurt de toute façon.
Voilà, vive le Wi-Fi dans les donjons. Bonsoir Pierre. Pierre.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Pierre, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur la partie financière de l'entretien des bâtiments historiques. Dans notre petite commune, il y a une église qui est classée et qui a besoin d'entretien régulièrement. Et bon, pour avoir des subventions, on doit travailler avec des entreprises qui sont agréées par les monuments historiques, par les bâtiments de France, enfin tous ces organismes. Et ces entreprises en profitent pour surfacturer leurs prestations par rapport aux artisans beaucoup plus ordinaires qui ne sont pas agréés. Voilà.
Et qui sauraient faire, à votre avis, le même travail que les entreprises agréées?
Alors, peut-être qu'ils n'ont pas exactement les mêmes compétences, mais je pense que la plupart seraient capables de faire exactement la même chose. Quand il s'agit de remonter un mur en pierre de taille, par chez nous, les artisans sont capables de le faire. Alors que pour avoir des subventions, les communes sont obligées de passer par ces entreprises agréées.
Merci voilà. Pierre pour votre remarque qui rejoint ce que disait Célia Véro, une première auditrice. Est-ce qu'il faudrait éventuellement essayer de donner un peu de mou, si je puis me permettre cette expression, donner un peu de lâcher un peu de lest en fait pour essayer de faire tomber le prix des restaurations, notamment, alors peut-être plus d'entreprises agréées, ou peut-être permettre à des entreprises qui ne le sont pas forcément de faire un certain nombre de travaux. C'est possible ?
Je crois qu'on a deux enjeux sur lesquels il faut travailler, celui de la juste qualité, au juste prix, et celui de l'entretien. Parce que c'est vrai que dans tout le travail qui est fait sur le patrimoine, et notamment les subventions, on donne des subventions pour les travaux, mais pas pour l'entretien, et l'entretien, c'est ce qui va permettre de minorer les montants des travaux. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu. C'est lié à la fois aux entreprises, mais aussi aux prescriptions qui sont émises. Je crois que de plus en plus, les prescripteurs des travaux, hein, les architectes des bâtiments de France, les services culturels de l'État, ils recherchent la discussion avec les propriétaires et avec les maîtres d'œuvre pour arriver à des solutions qui sont justes. Mais c'est un travail.
Stéphane Bernet, est-ce que c'est pas un peu trop sévère, en fait, par moment, les agréments, quelles entreprises, quels entrepreneurs ont le droit de travailler sur quoi? Est-ce qu'on peut donner un peu d'espace ou c'est difficile?
Moi, je crois qu'il faudrait, en tout cas, simplifier les démarches aussi. Parce qu'entre le moment où vous demandez les avis, alors tout commence par les ABF qui font un travail remarquable la plupart du temps pour alerter notamment sur l'état du patrimoine. Et puis, le moment où vous déposez les dossiers dans les DRAC, etc. Et puis, vous avez toute l'ingénierie administrative et financière, ben, votre monument, il a le temps de s'effondrer trois fois. Et ce que dit Célia Véro est très juste. Et il n'y a pas seulement la restauration du patrimoine, c'est l'entretien. Vous savez que si vous attendez un an pour faire les travaux, eh bien, vous multipliez par trois la somme que vous allez devoir verser. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, il y a eu cette discussion au Parlement qui a mal tourné, il faut bien le dire, sur le prélèvement à la source, et que les propriétaires privés, maintenant, vont pendant deux ans, ne vont pas faire de travaux 2018-2019, parce que voilà, ils n'ont pas les moyens. On dit toujours que c'est une niche fiscale, par exemple, pour les propriétaires privés, et que ça leur coûte très cher, enfin que voilà, ils hésitent à faire des travaux, et que c'est, on parle toujours de ces propriétaires comme des gens riches qui sont, vous savez, ils ont des seaux d'eau dans leur chambre à coucher, dans leur salle de bain, et ils défiscalisent quand ils peuvent se permettre de mettre de l'argent dans les travaux. Mais la plupart du temps, ils n'ont pas les moyens, un peu comme les collectivités. Donc, je crois qu'il faut mettre de la souplesse, il faut peut-être être plus à l'écoute des uns et des autres, et surtout se dire que c'est une cause nationale. Moi, je trouve formidable qu'il y ait plein de jeunes 2.0, des jeunes des start-up du patrimoine, que ce soit d'Artagnan, pour faire du financement, pour eux, que ce soit adopteunchâteau.com avec ce qu'ils ont fait à la mode chandonnier, que ce soit l'association Rempart, par exemple, qui, avec les chantiers, qui permettent à des jeunes de découvrir le patrimoine, mais les chantiers de réinsertion, qui avaient lancé l'idée de Cresson. Il y a une palette, un kaléidoscope de gens qui se mobilisent pour le patrimoine. Il faut les encourager, les soutenir. Voilà le véritable enjeu.
Un dernier appel au téléphone sonne, c'est celui d'Odon. Bonsoir, Odon.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Merci. Voilà, nous sommes propriétaires, mon épouse et moi, d'une chapelle au Dora, dans le nord du Limousin. Et je voulais insister sur le fait que, pour les propriétaires privés, l'accès à certaines subventions est extrêmement difficile. Je pense à la Fondation du patrimoine qui nous a aidés en tant que privés, mais avec laquelle nous ne pouvons pas continuer à travailler pour ce qui est de lancer des souscriptions publiques, par exemple. Et donc, Tout ça pose vraiment des difficultés pour nous d'accès, malgré le fait que la chapelle soit ouverte au public 6 mois par an avec des expositions et qu'on a un statut au sein du village pour ça. Mais voilà, il y a aussi insister sur le fait que nous sommes, et Stéphane Bern le disait à l'instant, les propriétaires privés ne sont pas des gens riches, forcément, sont des gens qui se retrouvent avec un patrimoine qu'ils ont choisi ou dont ils ont hérité, en l'occurrence qu'ils ont choisi, et qu'ils se battent avec souvent le soutien de la population, ça c'est clair, de plein de bonnes volontés, mais qu'on a des difficultés quand même pour avancer dans la restauration d'un patrimoine. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut répondre, Célia Véraud, à Odon ?
Ce que souligne cet auditeur, c'est que il y a un certain nombre d'outils pour soutenir le patrimoine, mais parfois des restrictions sur lesquelles il faut réfléchir et qu'on pourrait lever. Par exemple, son cas, il a bénéficié d'un label de la Fondation du patrimoine, c'est un avantage fiscal. Par contre, il y a des conditions très restrictives pour ouvrir une souscription pour un propriétaire privé. De même, on peut pas donner ce label et donc cet avantage fiscal à des projets qui recueilleraient des recettes commerciales. Donc c'est dommage parce qu'on pourra pas entretenir le bâtiment derrière.
Merci beaucoup. Une toute dernière chose, Stéphane Bern, parce que l'heure tourne, il y a beaucoup de gens qui nous appellent au 01 45 24 7000, à Varennes-Jarcy dans l'Essonne, à un mot de 84 personnes à un autre endroit, et qui nous dit comment fait-on pour contacter Stéphane Bern, comment on fait pour l'appeler, le chargé de mission de préservation. Vous aviez dit que vous aviez énormément d'appels. Il y a un endroit où on renvoie ces gens?
Oui.
Où on leur donne
absolument
votre 06.
Il y a une plateforme. Non, écoutez, je serais bien en peine de répondre à toutes les demandes. Personnellement, ce qu'on a fait avec la ministre de la Culture, on a mis une plateforme en ligne. Vous tapez mission patrimoine en péril, Stéphane Bern, ministère de la Culture, sur un moteur de recherche. Vous trouvez le formulaire. On étudie et on le fait avec Célia Véraud, puisque c'est là, encore une fois, c'est la Fondation du patrimoine qui est la cheville ouvrière. Et on répond à tout le monde, on priorise et on va essayer de sauver le maximum de monuments. Mais il y a plein de nouvelles idées novatrices pour sauver le patrimoine. Il n'y a pas que le loto, il y en a d'autres qu'on va mettre en place l'année prochaine.
Merci beaucoup, merci à vous Stéphane Bern, merci à Célia Véraud, merci à vous tous qui avez posé beaucoup de questions ce soir. Bonne soirée.